Pensées oiseuses d'un oisif sur les chiens et sur les chats par Jérôme K. Jérôme. Ce qu'ils m'en ont fait voir ce matin, c'est quelque chose d'inouï. Cela a débuté par Gustave Adolphe. Gustave Adolphe, on l'appelle Gust en bas pour abréger, est le meilleur des chiens quand il est au milieu d'un champ spacieux ou d'une vaste prairie. Mais je ne veux plus de lui à l'intérieur. Il n'en peut rien. Mais cette maison n'est pas à sa taille. Il s'étire et pend, voilà au moins deux chaises par terre. Il agite la queue, et c'est comme si une armée dévastatrice venait de traverser la chambre. Il souffle et le feu s'éteint. À l'heure du dîner, il se faufile sous la table, il reste tapis un moment, puis se relève tout d'un coup. La table paraît prise d'une envie de faire la cabriole. Nous nous y cramponnons tous et tentons de la maintenir dans la position horizontale. Sur quoi ? Persuadé qu'on a ourdi contre lui un perfide complot, il se livre à des efforts frénétiques et le tableau final se compose généralement d'une table culbutée et d'un dîner en marmelade, sandwiché entre deux couches étalées de femmes et d'hommes furieux. Ce matin, il est entré à sa manière habituelle qu'il paraît avoir empruntée au cyclone d'Amérique. Son premier soin a été de jeter à bas ma tasse de café et d'en envoyer le contenu en plein mi-temps de mon gilet. Je me levai de ma chaise précipitamment et disant, m'approchant de lui à une allure rapide. Il me précéda dans la direction de la porte. À la porte, il rencontra Elisa qui apportait les œufs. Elisa fit « Bon !» et tomba assis sur le parquet. Les œufs s'en allèrent dans toutes les directions sur le tapis où ils s'épanouirent et Gustave Adolphe quitta la chambre. Je l'injuriai, lui conseillant fortement de filer droit et de ne plus reparaître avant une heure ou deux. Et lui, comme pour m'obéir, bousqua le bac à charbon et disparut, cependant que je rentrais me nettoyer et finir mon déjeuner. 10 minutes plus tard, comme je regardais dans le couloir, j'aperçus Gustave assis au haut de l'escalier. Je lui ordonnai de descendre sans tarder, mais il se contenta d'aboyer et de bondir çà et là. Aussi allais-je voir ce qui se passait. C'était Titine. Elle était installée sur la seconde marche et refusait de débarrasser le chemin. Titine, c'est notre chatte. Elle est à peu près de la taille d'une brioche à 10 sous. Elle faisait le gros dos et jurait comme un carabin. Elle jure effroyablement. Cela m'arrive parfois un peu à moi aussi, mais à côté d'elle, je suis un pur amateur. À vous dire la vérité, mais ceci, strictement entre nous, je vous prie, je pense que cela nous fait du bien de jurer. Le juron, c'est la soupape de sûreté par où la mauvaise humeur s'échappe en jet de vapeur inoffensif. Quand on a dit « Béni soyez-vous, mon cher et bon monsieur, quel génie secourable vous a fait assez négligent, si je puis me permettre cette expression, assez négligent, dis-je, pour vous laisser poser avec tant de vigueur votre pied léger et délicat sur mon corps. Est-ce que vous êtes physiquement incapable de vous rendre compte de la direction dans laquelle vous marchez, espèce de charmant et adroit jeune homme, espèce, ou autre parole du même genre, on se sent soulagé. Le juron a sur nos émotions coléreuses le même effet apaisant que l'on attribue à bon droit au bruit du mobilier et au claquement des portes. Jurer nettoie un homme comme on nettoie la cheminée de la buanderie avec 10 sous de poudre à canon. Une explosion de temps à autre est bonne pour tous les deux. Je me méfie assez d'un homme qui jamais ne jure, ni ne décoche au tabouret un coup de pied farouche, ni ne tisonne le feu avec une violence superflue. Sans quelque exutoire, la colère engendrée par les perpétuels petits ennuis de l'existence est capable de rancir et de fermenter en dedans. Un minime embêtement, au lieu d'être rejeté hors de nous, s'installe à notre côté et devient un chagrin. On ressasse une petite injure, tant et si bien que retournée sur la grille de la rumination, elle se développe en une grande offense, à l'ombre de laquelle finissent par croître la haine et le désir de vengeance. Jurer soulage les sentiments, et voilà le bienfait de jurer. Il m'est arrivé une fois d'expliquer ceci à ma tante, mais elle refusa de l'admettre. Elle me répondit que je n'avais pas besoin d'avoir de pareils sentiments. C'est ce que je dis alors à Titine. Je lui exposai qu'elle devait avoir honte, surtout élevée comme elle l'était dans une famille chrétienne. Qu'une vieille chatte jure, cela ne me dérange guère, mais je ne puis supporter de voir une simple chatonne se permettre ça. C'est attristant chez quelqu'un de ces jeunes. Je fourrai Titine dans ma poche et m'en retournai à mon pupitre. Je l'oubliai pour le moment, et quand je levai les yeux, je m'aperçus qu'elle était sortie subrepticement de sa prison et était passée sur le bureau où elle s'efforçait d'avaler mon porte-plume. Puis elle posa la patte dans l'encrier qu'elle renversa. Puis elle se lécha la patte. Puis elle jura de nouveau, contre moi, ce coup-ci. Je la déposai par terre, et là, Tim se mit à lui chercher Noise. Je souhaiterais que Tim se mêlât de ce qui le regarde. Le crime qu'elle venait de commettre n'était pas son affaire. D'ailleurs, ce n'est pas non plus un saint que Tim. Ce n'est qu'un fox-terrier de 2 ans, et il se mêle de tout et se donne les airs d'un collet d'Écosse à tête grise. La mère de Titine est rentrée et Tim a eu le nez égratigné. Ce dont je suis fort aise. Je les ai mis tous les trois dans le corridor où ils sont en train de se battre à l'heure actuelle. S'il vient encore quelques chiens ou chats faire l'imbécile autour de moi ce matin, il faudra bien me commander son enterrement. En général, pourtant, j'aime beaucoup les chiens et les chats. Ce sont de si joyeux petits gars. Ils sont des compagnons bien supérieurs aux humains. Ils ne se disputent ni ne discutent avec vous. Ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Ils écoutent pendant que vous parlez de vous et ont l'air de s'intéresser à la conversation. Ils sont toujours heureux de nous voir. Ils sympathisent avec nous dans toutes nos humeurs. Joyeux quand nous sommes gais, sérieux quand nous sommes graves, tristes quand nous avons du chagrin. Olé, gai, vive la rigolade, tu as raison, je suis ton homme. Me voici, frétillant autour de toi, sautant, jappant, gambadant, prêt à tout pour la blague et le méfait. Regarde-moi dans les yeux si tu ne me crois pas. Qu'est-ce que ce sera? Une poursuite dans le salon et tant pis pour le mobilier ou une escapade au bon air frais, un galop à travers champs? Ou préférez-vous rester tranquille à penser? Fort bien. Minette va s'installer sur le bras du fauteuil à ronronner et Montmorency se roulera en boule sur la carpette et clignotera devant le feu tout en vous surveillant d'un œil pour le cas où vous seriez pris d'une envie soudaine de chasser le rat. Et quand nous nous cachons la figure entre les mains et que nous regrettons d'être nés, ils ne se redressent pas très roides sur leur siège en déclarant que nous nous sommes attirés tous là par notre faute. Ils n'espèrent même pas que ce sera un avertissement, mais au contraire, ils s'approchent doucement et se frottent la tête contre nous. Si c'est un chat, il se met sur notre épaule, repousse nos cheveux et dit « Mon Dieu, pauvre ami, que j'en suis triste pour toi, aussi clair que la parole. » Et si c'est un chien, il nous regarde avec ses gros yeux fidèles qui disent « Bon, je te reste quand même, tu sais, nous parcourrons le monde ensemble et nous nous soutiendrons toujours l'un l'autre, pas vrai ?» C'est très imprudent, un chien. Il ne s'occupe jamais de savoir si vous avez raison ou tort. Ne s'inquiète pas si vous montez ou descendez sur l'échelle de la vie. Ne demande pas si vous êtes riche ou pauvre, sot ou sage, pêcheur ou saint. Vous êtes son poteau, ça lui suffit. Et vienne heure ou malheur, bonne réputation ou mauvaise, honneur ou honte, il n'en va pas moins s'attacher à vous, vous console, vous protège, au besoin, donne sa vie pour vous. Ce nigaud de chien sans intelligence et sans âme. Ah, vieil ami solide, avec tes yeux profonds et clairs et tes regards vifs et brillants, qu'ils comprennent tout ce qu'on a à dire avant qu'on ait eu le temps de l'énoncer. Sais-tu bien que tu n'es qu'une bête et que tu n'as pas d'esprit? Sais-tu que ce vagabond à l'œil terne, cette éponge à jean, appuyée contre les réverbères là-dehors, t'est démesurément supérieur en intelligence? Sais-tu que le moindre gredin égoïste à l'esprit étroit, qui vit de ruse et d'expédient, qui n'a jamais fait un acte noble ou dit une parole de bonté, qui n'a jamais eu une pensée qui ne fût basse et vulgaire, ni un désir qui ne fût vil, dont toutes les actions sont fausses, dont chaque mot est un mensonge, sais-tu que ces rebuts d'humanité, il y en a des millions de par le monde, sais-tu qu'ils te surpassent autant que le soleil surpasse la lumière d'une chandelle, toi, l'honnête animal, au cœur brave et généreux? Ce sont les hommes, tu sais, et les hommes sont les plus grands, les plus nobles, les plus sages et les meilleurs des êtres de tout l'immense univers éternel. N'importe quel homme te dira cela. Oui, pauvre cabot, tu es bien bête. Tu l'es certes, comparé à nous, hommes de savoir, qui nous y connaissons en politique et en philosophie, et qui savons toutes choses, oui, toutes choses, excepté ce que nous sommes, et d'où nous venons, et où nous allons, et ce que sont les choses étrangères à ce monde minuscule, et la plupart aussi de celles qu'il renferme. Mais n'importe, miné au cabot, nous vous aimons d'autant mieux que vous êtes bêtes. Tous nous aimons les êtres bêtes. Les hommes ne peuvent supporter les femmes savantes, et pour une femme, l'homme idéal est celui qu'elle peut appeler « chère vieille bête ». Il est si agréable de rencontrer des gens plus bêtes que soi. Nous les aimons d'emblée à cause de cela. Le monde doit être lui assez dur pour les gens de savoir. La vulgarité ne les aime pas, et quant à eux-mêmes, ils se détestent réciproquement de tout cœur. Mais aussi, les gens de savoir sont une minorité si infime qu'il n'importe vraiment guère qu'ils soient malheureux. Aussi longtemps que les sots peuvent vivre contents, le monde, en somme, se portera passablement bien. C'était « Pensée oiseuse d'un oisif sur les chiens et sur les chats » par Jérôme K. Jérôme.